Alors, pendant que je suis en train de te parler, là, je suis désolé, je suis pas très concentré parce que je suis en train de me faire une liste intelligente dans musique, qui s'appelle plus iTunes, et deux critères qui sont nombre de lectures supérieur à 20 et date d'ajout du morceau entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, même si c'est dans le futur.
D'accord.
Je vais te donner les résultats tout de suite du top 3. Juste, je sais pas tout à fait ce que j'ai noté dans dans les notes, mais ça m'intéresse de mon côté de. J'avais pas fait ça comme ça, mais. Alors, attends. Modifier les règles. Tac,
Du très bon
tac,
podcasting.
tac. Je vois que le deuxième morceau le plus écouté de 2021 est un morceau de Utada. Non, Hikaru Utada. Utada Hikaru. Une artiste japonaise qui me semble est non-binaire. Et c'est un morceau de la série Evangelion, qui
Oh.
s'appelle One Last Kiss, qui est très bien. Voilà, bon.
J'ai une liste pas du tout similaire cette année. Je me suis fait pour la première fois une liste de favoris de l'année que j'ai appelée 2021 parce qu'évidemment.
Oui, parce qu'on est d'accord, je suis désolé, je t'interromps, mais on est d'accord que les morceaux que tu écoutes le plus sont pas forcément tes favoris de l'année pour autant. Il y a beaucoup de guilty pleasure dedans.
Ouais, enfin là, je viens de créer l'équivalent de ta playlist, donc les morceaux les plus écoutés. Il y a des recoupements, par exemple, il y a l'album de Samara Joy, dont je sais que je vais parler dans 5 minutes, mais là, la playlist de 2021, il y a des choses que j'ai écoutées qu'une seule fois, quoi. Mais qui m'ont renversé, enfin. Le dernier album de Christian McBride, qui est toujours très bien, ou. La cover de la rumba d'Armando par Jenny Klukken, ou c'est très bien. C'est des morceaux que j'ai écoutés qu'une ou deux fois, quoi. C'est des morceaux pour moi qui disent quelque chose de 2021 et de ce que j'ai de la scène jazz en 2021 et de ce que j'ai apprécié en 2021, mais c'est pas forcément les morceaux que j'ai le plus écoutés, quoi. Enfin, les morceaux que j'ai le plus écoutés, c'est la troisième ou quatrième piste de l'album de Noël de Norah Jones. Qui objectivement est pas un bon album et c'est pas de la grosse musique quoi, donc y a pas un recoupement parfait quoi.
Ah, je suis d'accord.
Qui commence, toi ou moi?
Vas-y, t'es bien parti, j'ai l'impression.
Comme la semaine dernière, comme c'est moi qui fais les règles, j'ai le droit de les transgresser. J'ai regardé le documentaire Get Back de Peter Jackson. C'est 6 heures sur Disney+.
Il faut que je regarde, c'est dans ma liste de lecture. Le visionnage, liste de visionnage.
Donc du coup, Cécile et moi, depuis 15 jours, on chantonne les Beatles de 8h du matin à minuit, ce qui est un peu embêtant. Ce que j'ai trouvé fascinant, plus que la musique, même si c'est... enfin, j'ai eu des moments où je me suis liquéfié dans mon canapé, parce que quand tu vois McCartney composer Get Back en tapant sur sa basse et que le morceau lui vient, tu te dis... Ouais, j'aimerais être capable de faire ça avec mon clavier, pouvoir taper n'importe comment sur mon clavier, il y a du texte qui s'écrit, ce serait bien, vraiment. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant que la musique, c'est le parti pris de Peter Jackson, qui était de restaurer les bandes, et de les restaurer notamment à grands coups d'intelligence artificielle, et donc d'essayer d'enlever au maximum le bruit des bandes. Où c'est assez étonnant, parce que du coup l'image est extraordinairement propre, beaucoup plus propre que le son d'ailleurs. T'as presque l'impression de regarder de la fiction qui a été composée en 3D. Tu vois, un truc qui a été composité dans Unreal Engine, et où c'est un docu-fiction sur les Beatles. Et où il y a un moment où c'est tellement propre que ça te sort de la musique, parce qu'au lieu d'écouter la musique, tu regardes le docu, quoi. Et tu regardes le docu d'une manière analytique, parce que le traitement effectué par Peter Jackson te sort complètement du truc, et tu vois que t'es devant un objet qui n'a pas du tout la portée historique que Jackson prétend lui donner. Et qu'en fait, c'est un objet qui est construit et que ce que tu regardes, c'est pas comment les Beatles ont composé leurs deux derniers albums et ont créé le fameux concert sur le rooftop de leur studio, mais tu regardes un objet qui est l'objet de Peter Jackson, fan absolu des Beatles, et comment Peter Jackson conçoit la manière dont les Beatles conçoivent. Et donc c'est très très méta. Je trouve ça fascinant. Enfin, en tant que, on va mettre plein de guillemets autour, mais en tant qu'artiste, je trouve ça. Enfin, c'est évidemment fascinant, mais c'est fascinant moins pour les Beatles que pour Peter Jackson, ce qui quelque part est ennuyant. Mais les Beatles, quoi. Enfin, c'est vachement bien. Quoi.
C'est une démarche qu'il avait déjà eue avec Tolkien, un petit peu. Une manière à la fois très presque académique de plonger dans le texte,
oui,
et d'en tirer vraiment la moelle, ce qui l'intéressait, mais en même temps aussi de dénaturer l'œuvre suffisamment pour qu'elle lui appartienne.
Oui.
Je crois que c'était le fils de Tolkien qui est maintenant décédé, Christian, je crois, qui disait qu'il avait un peu éviscéré le Seigneur des Anneaux. Et il y a du vrai là-dedans. Il a empaillé l'œuvre, quoi.
Ah, dans la trilogie originale, c'est peut-être un peu moins le cas que dans Le Hobbit. Mais
ah oui, Le Hobbit
c'est par exemple.
N'en parlons pas.
C'est incroyable. C'est une œuvre de Peter Jackson. C'est pas Tolkien.
Oui. Mais même encore, je crois que c'est encore autre chose. Il y a une part d'abomination là-dedans. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, il a aussi pris beaucoup de. Il a créé à partir du matériau d'origine beaucoup de choses, enfin, que ce soit dans les paroles, de la musique, dans les dialogues, dans certains personnages. Il a fait du roman, enfin de la trilogie originale, une sorte de graine dont il a fait pousser un arbre, en fait. Et c'est cet arbre qu'on voit.
Mais si tu veux, avec Tolkien, quelque part, enfin, tu pars d'une fiction, tu crées une fiction, c'est.
Oui.
Enfin, ça va, quoi.
Oui, c'est vrai.
Là, ce que je trouve. Ou quelque part, il y a quelque chose qui casse dans ma tête, c'est que tu sais que le matériau est réel et que c'est vraiment un matériau documentaire.
Ouais.
Et qu'à partir de ce matériau documentaire brut, t'obtiens quelque chose qui est complètement fabriqué et qui est, qui n'est pas un reflet de la vérité, quoi. Mais il avait déjà fait le coup avec son projet sur la guerre mondiale, quoi. Où à partir d'un matériau qui est vrai, d'un point de vue au sens philosophique du terme, tu crées un document qui est faux. Je trouve ça. en tant qu'historien de formation, quand on parle des sources primaires et des sources secondaires, enfin, c'est formidable, quoi. On invente une espèce de réalité alternative qui est extraordinairement proche de la réalité. Et c'est peut-être là-dedans qu'est le danger. C'est que c'est 99% vrai et que c'est le pourcentage de mensonges, le pourcentage de traitements, le pourcentage de montage à coups de ciseaux qui crée de la fiction. Et je trouve ça. Et ça va aller ça va être de pire en pire avec l'intelligence artificielle et la 3D. Et on voit, hein, quand t'as des boîtes de jeux vidéo qui achètent des studios de ciné, des studios de ciné qui achètent des moteurs de jeux vidéo, tu vois ce que ça va donner, quoi. Mais revenons à la musique, si tu veux bien, à toi.
Je veux bien. Écoute, j'avais noté 30 ou 30 de Adele, ou Adele. Ça m'ennuie un peu de l'avoir mis parce que c'est pas un album que j'ai beaucoup aimé. Je me suis senti un peu obligé d'en parler quand même parce que je suis la caution mainstream de ce podcast. Et ose me contredire, Anthony. Ose me contredire.
Ah non, je peux pas. Ça, c'est vrai.
Oui, voilà. Donc, parlons de Adele. Je trouve qu'on en fait un peu trop pour Adele. Je trouve que ces deux derniers concerts, là, donc celui à l'Observatoire Griffith et l'autre, je sais plus où, avec tout un parterre de stars, c'est assez étrange. On a l'impression que c'est la déesse du moment à qui tout le gratin rend le culte dû. Je conçois l'enthousiasme, surtout que il y a tout un délai entre chaque album, il y a une attente, il y a quelque chose qui une sauce qui monte, quoi. Je veux dire, on attend ça avec impatience à chaque fois. Et en général, il faut dire aussi que la qualité est là, parce que ben, c'est Adele quand même. Je veux dire, on n'entend pas non plus une voix comme ça tous les quatre matins, quoi. Et c'est pas juste la voix, c'est les mélodies, c'est les paroles, bon voilà. Je crois que ce qui m'ennuie, je suis en train de mettre des mots dessus au fur et à mesure que je te parle, ce qui m'ennuie, c'est que dans Adele, il y a un succès profondément populaire. Ça parle à tout le monde, mais surtout aux gens normaux. Et ça m'ennuie beaucoup qu'elle soit starifiée comme ça, parce que ça la sépare brutalement, ça l'arrache en fait à ce public qui était le sien, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire que c'est devenu... le parterre, franchement, le public qu'elle a dans ces deux concerts-là qui sont filmés, c'est vraiment que des stars, et je trouve ça très gênant et injuste un peu, parce que c'est pas ces gens-là qui l'ont faite, entre guillemets, et c'est pas ces gens-là qui l'ont écoutée avec, autant de loyauté que tout le monde, tu vois. Et sa musique parle, je pense, plus aux gens normaux qu'aux stars. Et donc ça m'ennuie un peu. Je trouve qu'il y a une espèce d'injustice là-dedans, et son dernier album, je trouve, est pas à la hauteur de ce qu'elle a fait auparavant, parce que ça bascule dans le culte de l'ego, et ça m'ennuie un peu, ça aussi.
Regarde Get Back.
Ok.
Parce que c'est le même problème avec les Beatles, quelque part, et tu vois comment ces gens ne s'appartiennent plus à eux-mêmes.
Mm.
Et comment l'idée que les gens se font des Beatles et l'idée que leurs producteurs se font de la musique des Beatles finit par dépasser les Beatles eux-mêmes.
Ouais.
Et comment ce groupe éclate parce que la construction sociale qu'est les Beatles dépasse les quatre individus qui forment les Beatles. Et là, c'est pareil avec Adele, quoi. Quelque part, elle s'appartient plus à elle-même, quoi. Et l'image que tu te fais d'Adele, ça n'est pas Adele, quoi. Et oui, quelque part, il y a Adele, la personne, et puis il y a Adele, la représentation,
oui,
qui se superpose à cette personne. Et oui, c'est...
Et ce qui est d'autant plus ennuyeux, c'est qu'on nous survend le côté « Mais elle est tellement naturelle, elle est down to earth, il n'y a pas de problème, tu vois, genre elle est sans filtre et tout. » Mais non, c'est devenu partie de cette construction artificielle, en fait.
Et c'est multimillionnaire qui a plus du tout les mêmes problèmes que nous. Donc,
bien sûr.
Quand elle chante de sujets qu'elle croit être des sujets universels, de fait, elle est coupée de cette universalité-là aussi. Mm. Elle n'est plus du peuple, quelque part. Malgré elle, peut-être, mais elle n'en est plus.
Mm.
Puisqu'on parlait de vocalistes, je me suis remis à écouter des vocalistes cette année.
Mm.
Alors que ça faisait longtemps que j'écoutais du jazz purement instrumental. Je dois dire que j'ai un gros crush sur Lady Blackbird. Et je crois qu'il faut que tout le monde écoute l'album Black Acid Soul, qui est... c'est pas vraiment du jazz, c'est un truc un peu mélangé, comme j'aime bien en ce moment, là, où il y a un peu de jazz, un peu de R&B, un peu de soul, un peu de... C'est vachement bien.
T'as toujours été un peu sacrétique en même temps, toi, non?
Toujours. pur jazz, pur vocaliste, Samara Joy, qui est d'ailleurs... Enfin, j'ai acheté tous les supports possibles et imaginables de cet album, qui est magnifique. Elle a une voix magique, c'est la nouvelle Billie Holiday, je mets ma pièce dessus. Et puis, j'aime Cyril Aimé d'un amour tendre. J'aimerais que Cyril Aimé soit ma sœur ou ma cousine, ou tu vois, qu'on puisse se voir une fois par an, et tu vois, manger ensemble, et l'album I'll Be Singing You, notamment, était... Enfin, tu mets ça, tu bois du chocolat chaud un samedi après-midi en lisant un bouquin, et tu mets I'll Be Singing You, c'est une certaine idée de la vie, quoi, si tu veux. C'est Hugues, comme disent les Scandinaves. C'est, ça fait un peu du bien à l'âme, quoi. C'est, de temps en temps, il faut ça aussi.
Est-ce que t'es en train de faire trois albums pour un seul item, là?
Oui, parce que je suis comme ça. Les règles ne s'appliquent pas à moi, j'ai toujours été comme ça aussi.
Mm-hmm. Oui, d'accord.
À toi.
Je vois. Bon, moi, j'ai pas eu l'outrecuidance de me sionner les Incentos, enfin, au contraire, je vais même prendre le contre-pied inverse, qui est... Le contre-pied inverse, waouh. Qui est...
Zéro artiste, c'est ça? Pardon.
Non, un single. le single Fever de Dua Lipa et Angel.
Donc zéro artiste, pardon.
Oh j'espère qu'elle ne nous écoute pas. Oh si, écoutez-nous en fait. Ouais, j'espère qu'elle nous écoute. c'est... Non, en vrai, Angel, j'ai un problème. Il faudrait que j'en parle dans un autre podcast, dans un autre épisode. Je pense que j'aime pas du tout Angel. Mais j'ai un peu un... C'est, je déteste, mais j'écoute quand même, tu vois. C'est j'aime pas sa voix, j'aime pas comment elle chante, j'aime pas ses textes, mais ça fonctionne parce que je sais pas, ça doit parler à une partie de mon cerveau qui est un peu conne. Et du coup je le reconnais, tu vois, mais ça me désole un petit peu, j'ai pas la force d'âme pour assumer mes convictions. Donc ouais, ce single, je pense que un de mes plus écoutés de 2021, très efficace, très court, 2 minutes 30. Trop court, donc tu le mets en boucle. Et ouais, c'est redoutable, quoi. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Puis les Anglaises, enfin les Américaines qui parlent français, enfin qui chantent français, c'est toujours rigolo, tu vois. Donc, non, il y a tout dans ce single. Il y a du catchy, il y a des paroles nulles. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Ouais. Je suis désolé, je manque un peu d'adjectifs là-dessus, mais je l'ai beaucoup écouté. Vous l'avez sûrement beaucoup écouté cette année. Ou peut-être pas d'ailleurs, et sinon, faites-moi signe, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais voilà.
Écoute, juste pour t'embêter, moi aussi j'écoute de la pop, ça m'arrive, et
s'il vous plaît.
je dois dire que parfois je suis un humain comme les autres, et donc comme à peu près toute l'humanité, j'ai écouté Sour de Olivia Rodrigo, et j'ai même écouté les réenregistrements des albums de Taylor Swift.
Ouh.
Et je dois dire que tout à l'heure on parlait de vérité et de documentaire, on pourrait dire des choses sur...
Ça c'est fascinant. Ouais.
C'est
ouais.
Incroyable, il y aurait des heures de discussion à avoir là-dessus. Moi qui suis... c'est un guilty pleasure quoi, Taylor Swift. Moi qui suis absolument fan de cette bonne femme. D'abord tout le bordel autour de la question de la propriété des...
Bien sûr.
De ces enregistrements m'intéresse en tant que journaleux, mais... Le réenregistrement, c'est incroyable. Enfin, sur certains, t'entends que la voix a changé parce qu'elle a vieilli, mais sur certains plans, c'est de la décalque, quoi. C'est du documentaire. C'est fascinant. Et ouais, Sour, c'est de la pop. Ça fait pas mal à la tête. Ça parle de quelque chose de l'universalité, de l'expérience humaine, mais avec des mots très faciles, quoi. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la pop brainiac, quoi. C'est pas Fiona Apple, quoi.
Trop compliqué, Fiona Apple. J'ai essayé. Oh
mais vachement bien, hein, dans un tout autre genre.
Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est pas mon truc, ouais.
Enfin, voilà, je l'ai écouté peut-être 4 ou 5 fois, cet album, ce qui est incroyable, hein, pour un album de pop.
Mais donc.
Et en plus, la jaquette est violette.
J'avais même pas remarqué, mais oui.
Ce qui doit jouer.
Je pense qu'effectivement, c'est même sans doute la raison numéro un pour laquelle tu l'as écouté. Ok.
Mais ça, enfin, de la même manière que Fever, probablement. Enfin, il y a un côté, il y a tous les clichés de la pop, il y a les trucs à 3 refrains, 4 couplets, plus le pont, modulation majeure mineure, le drop, le. Enfin.
Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne très bien.
Enfin, au bout d'un moment, ça marche, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, tu peux pas lutter contre ça, quoi. Bon, c'est.
Non. Ça touche à quelque chose de presque physique, quoi.
Oui.
On est programmé pour aimer ça. Quoi.
C'est ça. Oui. Oui, ouais, bah écoute. Tu écoutes parfois de la pop et moi des fois j'écoute des trucs un peu plus sophistiqués. bon, pas non plus trop quand même, faut pas déconner. Donc j'ai écouté le dernier d'Amon Albarn, un titre très long qui est, je vais le faire en franglais.
Vas-y.
The Nearer the Fountain. Non, punaise, je vais pas le faire en français. Non, c'est pas horrible. Donc, ce long titre est un extrait d'un poème qui s'appelle Love and Memory de John Clare, poète anglais de la fin du 18e, que je connaissais pas du tout avant, je vous rassure. Hein, je dis pas ça comme ça, genre, voilà. C'est un très joli poème sur la perte d'un être aimé. Je crois que c'est le premier titre de l'album qui reprend en grande partie ce poème. C'est un album avec des niveaux d'accessibilité variés,
ouais.
Divers. Je pense qu'il y a des morceaux qui touchent directement, d'autres qui sont beaucoup plus hermétiques. Donc c'est ça qui m'a un peu ennuyé. Dans le même genre, Björk est un peu pareil. Elle est moins sur les albums récents qui sont tous hermétiques, mais sur ses premiers albums, il y avait ce côté un peu pop d'un côté et en même temps beaucoup plus recherché de l'autre, mais ça restait quand même plus accessible, je trouvais, en tout cas dans les premiers albums, encore une fois. Là c'est vraiment trop inégal. Donc, j'ai bien aimé, mais je sais pas si je réécouterais souvent, quoi.
Est-ce que, comme moi, tu apprécies aussi la progression de l'artiste? On passe de Blur à cet objet qui est...
Gorillaz.
Ouais, puis c'est cet objet, cet album-là, dont je vais pas redire le titre parce qu'il est fort trop long, mais qui...
Oui.
Enfin, qui est quand même... Enfin, c'est pas hermétique, mais c'est quand même pas très accessible non plus. Enfin, ça demande un certain effort pour l'auditeur.
Bien sûr.
En tout cas, si tu veux profiter de l'ensemble d'expériences, et je trouve... Enfin, en tant que simple auditeur, je trouve très gratifiant de pouvoir à la fois aimer Blur et aimer ça. Parce qu'il faut aimer Blur. Il faut.
Entièrement d'accord.
Et il faut détester Oasis, il faut. par principe. Et je trouve assez gratifiant, non seulement de pouvoir aimer les deux à la fois, mais aussi d'avoir pu voir de mon adolescence à aujourd'hui, enfin, ou de mon enfance à aujourd'hui, la progression d'un artiste dans... Et puis, comment un artiste peut déployer...
Ouais, l'envergure,
exactement.
Tout
un tas de modalités.
Exact.
Enfin, je trouve ça... Enfin, c'est incroyable. Ouais.
C'est vraiment fascinant. C'est un des rares, effectivement, où il y a ça. Il y a, certes, il y a très peu d'exemples comme ça. Un peu Dave Grohl, mais il y a... une vraie évolution. Et...
Sting, dans un certain sens aussi.
Oui, Sting aussi, ouais.
Avec,
oui,
son,
oui.
avec son, sa virée classique, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est pas mal, qui est intéressante. Il y a, c'est des gens qui ont de l'épaisseur, quoi, tu vois. C'est,
ouais. En France, on a William Scheller qui est un peu ouais. en entonnoir, lui, mais, ouais. mais voilà, c'est
très
pareil.
Bien,
ouais,
très bien. Ouais,
ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est très gratifiant. Et surtout de. Il y a un côté qui flatte un peu l'ego de savoir, de pouvoir se dire ah je l'écoutais avant, je l'écoute maintenant.
J'étais
et
là avant qu'il soit voilà. à la mode et je suis toujours là maintenant qu'il est passé
ouais.
à la mode.
C'était le galette, tu vois, c'est ça. Exact.
À propos de mec passé de mode, je vais faire comme si le nouveau Clapton n'existait pas parce qu'il a quand même viré bizarre le père Clapton. Mais pour citer un autre Eric, Eric Bibb, The America, qui est alors, c'est de la critique politique un peu facile, anti-Trump, enfin, c'est voilà, de l'anti-Trumpisme un peu basique. C'est de la musique super familière, enfin, c'est Eric Bibb qui connaît sa guitare et qui fait ses gammes. Mais quelque part, il y a aussi, enfin, c'est aussi pour ça que t'écoutes les artistes que t'écoutes, quoi. C'est, parfois, t'as envie de retrouver un certain confort. Mais je dois dire que, et j'ai toujours apprécié ça chez Eric Bibb, il a parfois des fulgurances dans une tournure de phrase ou dans une manière d'arranger... un mot et une note et ça me rend parfois enfin ça me rend très mélancolique parce que ça me rappelle que je suis pas poète et que je serai probablement jamais poète mais c'est aussi ce genre de d'album où parfois je découvre ce genre d'album en faisant autre chose qu'en relisant un papier ou en triant des documents et tu t'arrêtes parce que t'as entendu une phrase et qui t'a arrêté quoi t'as paf et tu sens qu'il s'est passé un truc important. Et il y a un peu de ça. C'est, ouais, je passe un bon moment avec cet album.
C'est, je me méfie toujours un petit peu des messages.
De mes recommandations, pardon.
Alors ça aussi, bien sûr, mais ça allait sans dire. Mais il y a le des messages politiques dans les chansons. Je pense que c'est très difficile à articuler de manière à la fois, même pas ridicule, mais vraiment crédible et qui est du fond, quoi. C'est très difficile à faire, ouais.
Je crois qu'il y a que deux manières de le faire. Il y a soit tu le fais de manière très très subtile, très cachée, et où tu fais passer le message derrière la musique. Soit tu le fais de manière très ouverte et très très évidente. Et là, il a pris le parti de le faire de manière très évidente. Et je pense que c'est plus simple parce qu'il y a un côté tu peux écouter les mots ou tu peux écouter le contenu des mots. Tu peux juste écouter le rythme des mots. Et tu peux avoir ces deux modalités là parce que quelque part, enfin ce qu'il dit n'est pas renversant non plus quoi. Donc t'as pas forcément besoin d'être attentif sur le contenu. À toi.
Bon, il me reste deux items, un très pop et un peu moins pop. Je sais pas trop lequel choisir. Je prends le moins pop. C'était facile finalement. Ok. Donc un album des Capsberg Girls qui s'appelle Vous avez dit brunette point d'interrogation. Le point d'interrogation étant le signe, pas en toutes lettres. Alors, déjà le nom Casper Girls, ça vient de, si j'en crois internet, Johannes Hieronymus Casperger, 1580-1651, un compositeur de la période donc baroque, c'est pas.
J'allais le dire.
Oui, merci beaucoup. Et donc c'est un groupe de quatre jeunes filles qui se sont rencontrées à Lyon, enfin au conservatoire de Lyon, donc près de chez toi, je pense, puisque Lyon est tout petit. Et elles font de la musique baroque contemporaine, je sais pas trop comment dire. Bon, ce sont des instruments d'époque, mais les rythmes et les harmonies sont adaptés sur des mélodies anciennes, et sont adaptées pour être quelque chose d'un peu plus frais. Et c'est vachement bien. C'est très plaisant à écouter. C'est tantôt poétique, tantôt jovial, voire presque grivois, tantôt contemplatif. Enfin, c'est vraiment très chouette. J'ai mis ça en fond plusieurs fois pendant que je travaillais. J'ai écouté évidemment aussi activement plusieurs fois. Et je trouve que ce qu'il y a de merveilleux dans ce type de musique, déjà, c'est que il y a une vraie jeunesse dedans parce que non seulement évidemment les interprètes sont jeunes et tu sens qu'il y a cette espèce de vivacité intrinsèque, mais derrière, il y a aussi toute la verdeur originelle du texte et des mélodies, donc du 15e, 16e siècle, 17e siècle, pardon. Oui, c'est ça, 17e siècle, excusez-moi, qui un peu comme dans Molière joué aujourd'hui à la Comédie Française, tu vois, c'est quelque chose d'intemporel. On touche à quelque chose d'immortel, quoi. Et c'est vraiment chouette.
Écoute, il y a 4 moutons sur la jaquette, donc hop, ajouté à la bibliothèque, par principe. Bon, à moi alors. Écoute, on va décerner un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à Makaia McCraven. Je suis assez passionné depuis 18 à 24 mois, je pense que c'est le confinement qui veut ça, par cette scène américaine, parce que c'est surtout une scène américaine qui est un peu à la confluence du jazz et des musiques qu'on dit urbaines, pour pas dire noires, j'aime bien cet euphémisme, que je trouve assez passionnant, parce que le musique, je sais pas si vous voulez dire musique populaire, mais musique populaire noire qui donne le rag, qui donne le jazz... Et puis les autres musiques populaires noires, le hip-hop, la R&B, la soul, et quelque part il y avait quelque chose qui venait de la tête, quelque chose qui vient du corps, et ces deux qui arrivent à se, ces deux courants quoi qui arrivent aujourd'hui à se rejoindre, je trouve ça assez passionnant. Il y a donc Makaia McCraven, il y a Kamasi Washington, Adrian Young, Jazz is Dead, c'est passionnant. The American Negro qui est sorti cette année, c'est peut-être le plus bel album qui est sorti cette année de tous les genres, parce que j'ai tout écouté.
Psychopathe.
Et en plus, Makaia McCraven, on peut dire Cocorico parce qu'il est né à Paris. Et c'est un.
Ah, je savais pas ça.
C'est un truc, c'est un truc assez spécial, quoi. C'est pas. Je pense qu'il faut l'écouter même si t'aimes pas le jazz et surtout si t'aimes pas le jazz. Parce qu'il y a des harmonies très jazzifiantes, mais c'est aussi un objet. Enfin, il y a des gens qui parlent, il y a des vagues trucs qui parlent, qui évoquent le rap, qui évoquent la hip-hop. Enfin, il y a des
passerelles quoi.
Kamasi Washington, c'est pareil quoi. Où il a produit des gens aussi bien des jazzeux que des rappeux. Donc il se passe un truc dans la musique américaine en ce moment. On n'en parle pas en Europe. Je crois qu'on n'en parle même pas aux États-Unis d'ailleurs. En tout cas, dans la presse mainstream. Et d'abord, je trouve très intéressant que ce soit des gens qu'on appelle des minorités, quoi. Donc des gens qu'on a minorés jusque-là, qui, quelque part, renouvellent la musique américaine. Et en plus, c'est bien, quoi. Enfin, pour le moment, j'ai pas écouté un album de ce courant qui soit mauvais. Vraiment mauvais. Il y a des choses des expérimentations qui marchent pas, il y a des trucs qui sont un peu trop braignaques et où même moi, ça me paume, mais où, au bout d'un moment, c'est un peu fa, quoi. Et non, enfin, il se passe un truc. Et c'est chouette, quoi, parce que c'est quand même très agréable d'être aux sources de quelque chose et de pouvoir en être spectateur et de voir qu'il se passe un truc. Et c'est excitant, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et pour les oreilles, c'est un régal.
Peut-être que j'écouterai. Je ne te garantis pas que je le ferai, mais peut-être que j'écouterai.
Et je pense, parce que c'est vraiment quelque chose... alors, Kamasi Washington, notamment, les albums de 3 heures, c'est un peu plus compliqué à écouter, mais... Jazz is Dead, par exemple, de Adrian Young, ouais, c'est un truc, il n'y a pas besoin d'aimer le jazz pour écouter ça, quoi. C'est de la hip-hop vaguement jazzifiante, et c'est vachement bien, quoi.
Okay.
Et ça peut être une porte d'entrée vers le jazz ou vers des formes de jazz quand on connaît plutôt les musiques dites urbaines.
Ouais, ça c'est bon à savoir. Alors, j'aimerais tricher un peu aussi, tant qu'à faire. Et avant de dire mon dernier item de la liste, mettre un prix d'honneur à quelque chose qui n'a aucun rapport, et, ou en tout cas une mention spéciale. Cette mention spéciale irait à Silk Sonic, donc Bruno Mars et Anderson .Paak, qui ont commis un album il y a quelques semaines, je crois, c'est assez récent, hein. C'est la soul des années 70, mais genre aujourd'hui, quoi. Et c'est deux artistes brillant. Je pense que Bruno Mars, il est un peu clivant, soit on aime, soit on déteste, mais on peut que l'aimer là-dedans. Enfin, c'est très très bon. C'est... Si un jour vous êtes un peu en énergie un peu plus basse et vous vous dites néné, t'es un vie, vous écoutez Fly As Me, puis voilà quoi. C'est reparti pour un tour, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est du Red Bull pour les oreilles quoi. Mais sans le goût dégueulasse.
Comme disait parfois ma grand-mère à mon propos, il a ses moments.
Il a ses moments. Ouais, c'est pas mal.
Et donc maintenant que tu as triché, ton vrai choix.
Et mon dernier item du coup pour cette liste, c'est Clara Luciani avec son album Cœur.
Que tu m'as fait écouter.
Que je t'ai fait écouter, tu l'as écouté ?
Uh-huh.
Ah. Alors, je suis un peu mal à l'aise, je dois dire, avec l'obsession néo-disco rétro années 80, tout ça, de la pop française en particulier, du monde en général. Donc ça va tout à fait dans cette vague et tout, mais il y a dans Clara Luciani, c'est même pas des bons textes, c'est des textes à peu près ok. Globalement, il y a un vers bon pour quatre vers lambda, mais il y a quelque chose qui me touche là-dedans, je sais pas comment dire. C'est j'ai l'impression d'écouter quelque chose de profondément, en tout cas honnête de sa part. Et je crois que c'est quelqu'un d'assez simple en fait, qui doit être sans doute assez riche du coup, et parce qu'elle elle a trop peu de problèmes pour être compliquée. Et elle non mais je sais pas, son album est bien. C'est ça parle de d'amour, ça parle de plusieurs formes de ça. Donc il y a le côté familial, il y a le côté évidemment conjugal, tout ça, mais c'est très plaisant à écouter. Faut pas non plus l'écouter trop, sinon on casse vite le charme, mais je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Ouais.
Je sais pas si c'est à cause de mes origines, parce que je suis pas vraiment français, tu sais. Mais je le vois légèrement différemment. Et je pense que c'est parce que j'ai pas été exposé à la même musique quand j'étais enfant, quoi. J'étais beaucoup exposé à la musique espagnole. Et j'ai l'impression d'entendre la France qui est nostalgique de la France du TGV.
Oh. Ah ouais.
La France qui est nostalgique de Salut les copains. La France qui est nostalgique de Gainsbourg.
Ça a du sens. Mais pas seulement dans cet album, en fait, c'est une tendance générale.
Ouais, ouais. Enfin, et quelque part, c'est pour ça que c'est bien, parce que ça fait référence à des choses qui étaient géniales. Mm. Enfin, faut aussi le reconnaître, quoi. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que ces gens en ont conscience ?
Est-ce que c'est... Alors, vraie question, est-ce que c'est une intention artistique active, ou est-ce que c'est de la production pure, quoi ? Ça, je me demande vraiment.
Si c'est intentionnel, alors c'est bien.
Mm, c'est ça.
Vraiment.
C'est ça.
Parce que ça joue en plus avec l'attente que tu peux avoir d'une certaine musique française. Mm. Et où ça renouvelle le genre tout en marchant dans les pas de leurs prédécesseurs. Si c'est pas intentionnel et c'est juste du recrachage de ce qu'ils ont entendu quand ils étaient gamins, alors là, ça m'intéresse. Alors là, je prends les consultations psychiatriques à 500 balles de l'heure, vraiment. Parce que là, oui, je trouve ça... Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du Xanax, quoi.
Ce serait intéressant que Clara nous contacte, du coup, pour nous expliquer un peu plus sa démarche derrière. Je me posais exactement la même question sans pouvoir mettre les mots dessus, donc je te remercie de l'avoir articulé. C'est la vraie question que je me pose, non seulement pour elle, mais du coup, beaucoup d'artistes actuels, contemporains.
Parce que c'est une scène, hein.
Oui, voilà. Qu'est-ce qui est volontaire ? À quel moment elle a choisi cet instrument plutôt qu'un autre, ce rythme plutôt qu'un autre ? Et est-ce que c'est vraiment elle qui a choisi ou pas ? Je sais qu'elle écrit pas mal ses textes, ou au moins elle les co-écrit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une intention quand même, une application de sa part, au moins à ce niveau-là. Je sais qu'elle répète beaucoup, elle travaille beaucoup, notamment elle répète au même studio, elle le répète que moi, donc tu vois, j'ai failli la croiser quelque part, hein, c'est chouette. Mais après, j'en sais pas plus sur l'intention artistique, donc oui, ce serait... Toute la question est là-dedans, ouais.
Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais je le redis aux gens qui nous écoutent, vraiment, les albums pour s'endormir d'Arnaud sont vachement bien. C'est-à-dire que je ne les ai jamais écoutés en entier, ce qui prouve qu'ils marchent. Donc, si vous avez du mal à dormir, écoutez Arnaud, c'est soporifique. Et c'est le meilleur compliment qu'il puisse te faire, je crois.
Je te remercie beaucoup, ça me touche énormément. Alors, pour la référence, on mettra la référence en description, ne vous embêtez pas. Mais merci beaucoup.
Et puis écoutez, j'espère que dans le top 5 de tous les gens qui nous écoutent, il y a évidemment ce podcast.
Il y a intérêt.
Que ces gens vont évidemment ouvrir Apple Podcast et aller de ce pas mettre 5 étoiles à ce podcast.
Puisqu'il est temps de faire des cadeaux là, c'est bon, allez-y, ouais, quoi.
Plaisir d'offrir, monsieur l'ambassadeur.